Merci d'écouter RFI. Il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
Raphaël Rennes.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Raphaël. Bonsoir à tous.
Dans l'actualité aujourd'hui, Donald Trump, de retour devant ses partisans. L'ancien président américain est en meeting dans l'Arizona ce samedi. L'occasion pour le républicain de revenir, une fois de plus, sur le résultat de l'élection qu'il a perdu, ce qu'il conteste toujours.
Boris Johnson s'enfonce dans la crise politique. Le Premier ministre britannique a présenté ses excuses pour les fêtes organisées dans ses bureaux, en plein confinement de la population. Mais cela risque de ne pas suffire à calmer la colère au Royaume-Uni.
Et puis Christiane Taubira est officiellement candidate à l'élection présidentielle en France. L'ancienne ministre de la Justice l'a annoncé à Lyon, où elle a présenté les grandes lignes de son programme électoral.
Le journal en français facile.
C'est son premier meeting politique d'importance depuis le mois d'octobre.
Donald Trump a rendez-vous avec ses sympathisants ce soir à Florence, dans l'état de l'Arizona. L'ancien président, battu par Joe Biden en novembre 2020, a annoncé qu'il allait parler de l'Afghanistan, de l'inflation et de bien d'autres sujets. Nous sommes en ligne avec David Thompson en direct de l'Arizona. David, parmi ces autres sujets, il sera une fois de plus question du mythe de l'élection volée.
Oui, ce mythe qui habite toutes les têtes ici. Ils sont déjà plusieurs centaines à faire la queue avec leur drapeau, leur casquette rouge, impatients de voir leur héros Donald Trump en chair et en os dans quelques heures. Certains ont même passé la nuit ici. Sur le chemin, de nombreuses affiches demandent l'annulation pure et simple de l'élection de Joe Biden. On entend aussi beaucoup de militants chanter des insultes contre le 46e président des États-Unis, car ici, tous en sont convaincus. Joe Biden leur a volé leur victoire. Un an après l'attaque du Capitole, il n'en démord de pas. C'est toujours l'obsession numéro un de Donald Trump. Ce sera d'ailleurs le thème central de son premier meeting tout à l'heure, ce premier meeting 2022 ici en Arizona. Ce meeting doit lancer la campagne pour la reconquête de la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat. Sur scène, aujourd'hui, l'ancien président invite plusieurs candidats qui soutient officiellement pour ces élections qui auront lieu le 8 novembre prochain. Et tous ont un point commun, Raphaël, c'est de faire campagne en prétendant, toujours sans preuve, que Joe Biden n'est pas un président légitime.
David Thompson, envoyé spécial de RFI à Florence, dans l'Arizona.
Au moins 225 personnes sont mortes dans les émeutes qui ont eu lieu au Kazakhstan la semaine dernière.
C'est en tout cas le bilan communiqué par la justice du plus grand pays d'Asie centrale. Un bilan impossible à vérifier de sources indépendantes. Les communications avec le Kazakhstan sont toujours très compliquées. Internet est notamment coupé depuis le début de ces manifestations contre la hausse du coût de la vie.
Ils sont en désaccord sur beaucoup de sujets, mais Moscou et Washington semblent s'entendre sur la cybersécurité.
La Russie a annoncé hier avoir démantelé, à la demande des États-Unis, le groupe de pirates informatiques Revil. Ces hackers, selon le terme anglais, sont considérés comme les auteurs les plus redoutables d'attaques au rançongiciel, ces virus qui prennent le contrôle d'un ordinateur à distance et menacent de le détruire si une rançon n'est pas versée. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
14 arrestations, 500 000 euros de matériel informatique saisis, ainsi que 20 voitures de luxe. C'est ce qu'ont annoncé hier les services de sécurité russes au terme d'une action coup de poing perpétrée sur 25 sites répartis dans 5 régions du pays. Le service fédéral de sécurité, le FSB, a en outre précisé qu'il avait agi à la demande des États-Unis et souligné que le groupe de pirates informatiques Revil avait été démantelé. Ce groupe de hackers russophones s'était fait connaître outre-Atlantique en s'attaquant d'abord au groupe informatique américain Kaseya avant d'extorquer plus de 4 millions de dollars au réseau d'oléoduc Colonial, principale source d'approvisionnement en essence de la majorité de l'Est américain, pour lui rendre le contrôle de ses installations. Une opération qui met en évidence le renforcement de la coopération entre Moscou et Washington dans la lutte contre la cybercriminalité, conclue en juin dernier à Genève par Vladimir Poutine et Joe Biden lors de leur première rencontre. Pour sa part, Washington s'est dit satisfait de ces mesures initiales, précisant toutefois que cette opération n'avait rien à voir avec ce qui se passait entre la Russie et l'Ukraine. Quant aux personnes interpellées, elle risque jusqu'à 7 ans de prison. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
Une découverte qui soulève des espoirs pour des millions de malades de la sclérose en plaques.
Cette maladie auto-immune est très probablement due à un virus, celui d'Epstein-Barr. C'est la conclusion d'une équipe de chercheurs américains. Ils ont démontré que le virus est nécessaire au développement de la maladie, même si toutes les personnes infectées ne la développent pas. La sclérose en plaques touche 2 800 000 personnes dans le monde.
Il y avait eu les fêtes de Noël, les fêtes dans le jardin, et voici, Raphaël, les fêtes du vendredi.
Des apéros, des réunions alcoolisées ont été organisées plusieurs fois, le vendredi donc, dans les locaux du Premier ministre britannique, le 10 Downing Street, alors que le pays était en confinement, et même pendant le deuil national qui a suivi le décès du prince Philippe. Boris Johnson s'est excusé pour cela, mais ses excuses ne vont sans doute pas suffire à apaiser l'énervement. Sidonie Gaucher.
L'image contraste et agace. Le 17 avril 2021, on voit dans les journaux la reine Elisabeth II assise seule devant le cercueil du prince Philippe. Seule, en raison des restrictions sanitaires. Pourtant, la veille, la musique résonne dans 2 Downing Street. Un DJ set assuré par Shelley Williams-Walker, la conseillère spéciale du Premier ministre. Selon le Mirror, Boris Johnson encourageait son équipe à lâcher la pression en fin de semaine lors de ses apéros du vendredi. On parle d'une quinzaine de fêtes si fréquentes que l'équipe ministérielle allait se ravitailler au Tesco du coin avec une valise. Est-ce la goutte qui fera déborder le verre ? De tous bords, on appelle à une démission de Boris Johnson et la presse anglaise ouvre déjà les paris sur un ou une potentielle remplaçante. Et se demande même si la reine a le pouvoir de renvoyer un Premier ministre. Cela n'est pas arrivé depuis 1834. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Le Covid-19 en France, plusieurs manifestations étaient organisées contre le pass sanitaire ce samedi.
Mobilisation en forte baisse, après une hausse la semaine dernière, lorsque le président Emmanuel Macron avait déclaré qu'il voulait, je cite, « emmerder les non-vaccinés ». Samedi dernier, plus de 105 000 personnes avaient manifesté. Elles n'étaient plus que 54 000 aujourd'hui, selon le ministère de l'Intérieur.
Et puis environ 560 000 passes sanitaires pourraient être annulés en France.
Oui, ces documents qui permettent d'aller au restaurant, au cinéma, de prendre les transports en commun, seront annulés pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu leur dose de rappel 7 mois après avoir reçu la seconde dose du vaccin. 560 000, c'était l'estimation du ministère de la Santé hier soir, mais certains ont attendu la dernière minute et sont allés recevoir leur rappel aujourd'hui.
Ils sont désormais 9 candidats déclarés à gauche pour l'élection présidentielle après l'entrée dans la bataille de Christiane Taubira ce samedi matin.
L'ancienne ministre de la Justice a mis un terme à un faux suspense qui durait depuis la mi-décembre. Elle est candidate à l'élection du mois d'avril prochain. Et si elle pose comme condition à sa candidature de remporter d'abord la primaire populaire dans 2 semaines, Christiane Taubira a d'ores et déjà déroulé son programme en présentant des mesures très concrètes. Envoyé spécial à Lyon, Aurélien Devernoy.
Un revenu universel jeune de 800 euros pendant 5 ans, plus de TVA pour l'agriculture bio, un salaire minimum net de 1400 euros ou encore le recrutement de 100 000 soignants. Christiane Taubira a mis des chiffres dans son lyrisme, histoire de mettre fin aux critiques sur son absence de programme, mais avec un maître mot, le dialogue.
Nous allons faire tout cela ensemble, parce que nous en sommes capables. Nous allons le faire en discutant, en nous disputant parfois. Ce sera le ressort de ma présidence.
Faire ensemble face à une pratique du pouvoir qui s'est dévoyée, selon l'ancienne ministre de la Justice.
Nous voulons un gouvernement qui sache dialoguer au lieu de moraliser, de caporaliser.
Cette dérive, Christiane Taubira affirme pouvoir y répondre, du fait notamment de son expérience de femme d'État.
Je sais la nécessité de répondre aux missions régaliennes. Je sais qu'elles peuvent être lourdes. Oui, j'étais garde des Sceaux lorsque nous avons dû affronter les attentats les plus meurtriers de notre histoire.
Une manière aussi de se placer au-dessus de la mêlée des candidats à gauche. La question de l'union n'a d'ailleurs fait l'objet que d'une brève allusion. Christiane Taubira veut parler à tous les Français.
J'ai besoin de vous.
Mais avant de rassembler au-delà de son camp, il faudra déjà s'imposer à la primaire populaire de la gauche dans 2 semaines. Aurélien Devernoy, Lyon. RFI.
Et puis un mot de la Coupe d'Afrique des Nations et le Nigeria qui se qualifie facilement pour les 8e de finale. Dans le groupe D, les Super Eagles ont battu le Soudan 3-1. Mercredi, le Nigeria rencontrera la Guinée-Bissau qui affronte ce soir l'Égypte. 4 rencontres sont au programme demain, notamment dans le groupe F, Gambie, Mali et Tunisie-Mauritanie qui sera à suivre en direct sur RFI à partir de 16h en temps universel. Au même moment, la Côte d'Ivoire affrontera la Sierra Sierra Leone. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie.
Avec plaisir Raphaël.
Restez à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 20h10 en temps universel.